des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille en compagnie de ses invités, que ce soit à Canal M sur CKVL ou encore peut-être en balado, parce que je sais qu'il y a énormément de gens qui nous écoutent par ce biais-là. Aujourd'hui à l'émission, mère de famille jusqu'au bout des ongles, elle a eu le courage de quitter son pays pour la sécurité des siens. Femme d'affaires, elle est partie de rien, elle a tout recommencé au Québec pour devenir une des femmes les plus en vue de notre société. Récemment encore, vous vous en souvenez, Danielle Henkel, puisqu'il s'agit d'elle, mettait le feu au dragon et visait juste dans le cœur des participants, mais aussi des spectateurs. Une femme qui a tant de choses à raconter, et elle seule pouvait être la lectrice d'autant d'aventures, d'autant de défis, de drames et de rires. Danielle Henkel va être avec nous dans quelques minutes pour vous présenter « Quand l'intuition trace la route », énorme succès sur papier qui méritera ô combien également qu'on y jette une oreille et que ça fasse un énorme succès en livre audio. Aussi à l'émission en seconde partie, un coussin connecté peut-être pour les personnes âgées ou des personnes handicapées pour écouter des livres. Et puis beaucoup de nouveautés cette semaine, dont « Nickel Boys » de Colson Whitehead, prix Pulitzer 2020, rien que ça. Juste avant de rejoindre Danielle Henkel, cette chanson, je suis sûre qu'elle va l'aimer. Moi, je dis que c'est de Khaled, elle la dirait sûrement Khaled, elle me corrigera. C'est la vie.
Je n'ai jamais beaucoup dormi, mais cette nuit, même l'immense fatigue que je ressens ne me permet pas de trouver le sommeil dans cet avion qui nous conduit à Montréal. Nous devons atterrir à Mirabel. Le nom est joli. Tout à l'heure, Linda m'a demandé s'il y fait le même temps qu'à Montréal. Le Canada, en janvier? Je me suis informée de la météo. J'ai froid, juste à y penser. Mais nous sommes vêtus de vestes de laine et de tout ce que nous avons de plus chaud. Nous sommes prêts. Cette nuit, j'ai l'impression de porter sur mes épaules l'avenir de toute une famille. Ma famille. Ma mère et mes trois autres enfants sont restés à Oran, en attendant de nous rejoindre, car je ne retournerai pas là-bas. J'ai décidé de tout quitter. J'émigre. J'entraîne les miens dans l'aventure la plus folle de ma vie. J'ai 34 ans et j'ai une trouille d'enfants.
Ouais. Sacrée bonne femme, Madame Henkel. Bonjour, Daniel.
Bonjour, Clotilde. Comment allez-vous?
Bien. Ben là, franchement... Est-ce que c'est bien Khaled qu'il faut dire?
C'est Khaled. Alors, vous venez de me faire passer par une multitude d'émotions. D'abord, j'avais un plein soleil flamboyant. Je bougeais, j'ai dû même me mettre debout. J'étais assise, je me suis mise debout. Pour danser,
j'étais sûre.
Ça fait du bien, ça fait du bien.
Oui, oui.
Et puis on voit le soleil, on voit le, tu sais, l'amitié, le rassemblement
oui.
dans des moments comme on vit aujourd'hui, ça fait juste du bien.
Oui.
Vous voyez, juste des paroles, une musique. Puis ensuite, je suis tombée par surprise. Vous avez passé un des passages de mon livre.
Oui.
Et vous venez encore de me propulser en arrière.
En arrière.
Et je viens de revivre ce moment. Donc,
Surtout, Daniel Henkel, que c'était, j'ai pas hésité beaucoup avant de diffuser cet extrait, parce que c'est un tel tournant dans votre vie. Vous savez, je disais en introduction, vous êtes plus qu'une maman qui a abrité les siens. Vous êtes vraiment un chef de meute. Vous avez peut-être même sauvé la vie. La vôtre et celle de vos proches en décidant de malheureusement quitter le Maghreb, vous avez eu peur.
Oui, hein? Absolument, Clotilde. Je l'ai fait non pas parce que je sentais que c'était pourquoi pas, tu sais, oh ben oui, tu sais, il y a des gens qui migrent en France, en Espagne, en Allemagne, il y en a tous les ans. Non, je l'ai fait parce que oui. J'avais en fin de compte peur pour ma famille, beaucoup plus que pour moi. Vous savez, c'est toujours comme ça. Hein. Les chefs de famille ou les mamans, les papas, des fois, on pense même plus à nous, mais on pense à sauver notre progéniture. C'est vraiment ça qui s'est passé. J'avais trois jeunes filles, un jeune homme, en bas âge, à peine pour certaines à l'adolescence. Et je savais ce qui se passait, puisque, bien sûr, on savait que l'Algérie est passée par des moments difficiles. Il y a même eu une guerre civile à cause de l'extrémisme. Et donc, j'étais convaincue que mes enfants n'auraient eu aucune chance de passer au travers de cela.
Vous avez fui l'extrémisme, et ça, c'est important de le dire par les temps qui courent.
Oui.
Je ne voudrais pas passer, évidemment, toute l'entrevue là-dessus, mais je pense que c'est important de souligner que souvent, ce sont les gens même de ces pays-là qui doivent côtoyer la mort tous les jours, qui sont obligés de fuir l'islam extrême, quoi.
Absolument.
Bon.
Vous savez, l'extrémisme, c'est dans tout. Hein.
Oui.
C'est justement que ce soit au niveau religieux, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau personnel, quand on a des opinions extrêmes, quand on est extrême, même dans nos émotions. Donc tout ce qui est extrême d'un bord comme de l'autre n'est pas souhaitable. Et c'est ça qui mène justement les humains à faire ou à poser des gestes, à dire des choses qui ne sont absolument pas souhaitables pour l'humanité, pour la société. Donc, vous savez que ce soit, j'ai quitté parce que c'était l'extrémisme de ce côté-ci religieux, mais c'est pour ça que je rappelle aux gens, tout état d'extrême n'est jamais souhaitable pour les humains.
Exactement.
Ça finit toujours très mal.
Alors, je l'ai dit un petit peu plus tôt, femme d'affaires, ça, on le sait, on le savait, et on savait que dans ce livre, on vous suivrait ce cheminement qui a fait de vous la femme qui, on peut le dire, a réussi dans sa carrière. Mais ce que nous apprend ce livre, et c'est là où moi, ça m'a énormément touchée, c'est d'où vient cette drôle de bibite qui s'appelle Danielle Henkel, dans le sens de d'où vient cette générosité, d'où vient cette immense fidélité. Vous êtes une femme fidèle, Danielle,
oui.
En amour, en amitié, dans votre profession, donc dans les affaires. Je me suis dit, mais une femme comme ça, et mon ami Jean-Sébastien, qui est à la technique aujourd'hui, qui me le faisait lui aussi remarquer, une femme qui est au premier abord, tout de suite sympathique avec tout le monde, qui va toujours savoir le nom des gens à qui elle parle, qui va... Et on se disait, mais vous êtes rare. Je me suis dit, alors, d'où vient cette rareté? Et j'ai compris que, avant d'être vous-même une maman, donc de 4 enfants, et combien de petits-enfants déjà?
7.
Mais vous avez été une fille, et c'est, je dois dire que la petite fille laissait présager beaucoup de ce que deviendrait la femme, ne serait-ce que par ce qu'elle a vécu. Commençons peut-être par ce papa que vous n'avez pas connu, qui a eu la chance de vous gratifier d'un nom d'origine allemande. Je dis la chance parce qu'on en a parlé ensemble. Si vous aviez eu un nom à consonance arabe, ça aurait peut-être été plus difficile, comme pour votre mari d'ailleurs.
Tout à fait, tout à fait. Nous savons ce que ça fait encore et encore de nos jours, ce qui devrait normalement ne pas exister.
Mm-hmm.
Mais hein, on espère changer le monde un jour à la fois. Oui, et vous avez tout à fait raison, Clotilde. Je suis aujourd'hui où j'ai été façonnée par le fait que toute petite, j'ai pu avoir la chance de grandir aux côtés d'une grande dame, d'une femme qui m'a plutôt appris à être, à ressentir, à écouter, à observer. Toutes ces aptitudes que nous avons mis de côté souvent, trop souvent, pour le biais de « j'ai appris, je sais, j'ai tel diplôme ou tel diplôme ben, ». L'être humain ne se définit pas que par son parcours académique ou professionnel. À mes yeux, à moi, l'être humain se définit d'abord par ce qu'il représente, ce qu'il est fondamentalement. Et donc, ça se travaille aussi, vous savez.
Oui.
Je crois que je veux pas croire. Hein, je veux pas croire que l'être humain est fondamentalement mauvais.
Hein.
Il y a d'ailleurs un grand philosophe qui le dit. C'est la société qui le déprave. Il y a des grands débats là-dessus. Mais je pense que nous naissons tous avec cette fibre. C'est juste que malheureusement, on a des expériences de vie différentes et on choisit un bord ou l'autre ou d'autres, peu importe. J'ai choisi de vivre par rapport à ces valeurs-là. J'ai choisi de choisir l'humain.
Oui.
J'ai choisi de décider de ne pas me préoccuper, en fin de compte, et Dieu seul sait que c'était pas simple, Clotilde, si vous saviez.
Non,
c'est parce que c'est pas comme ça qu'on agit. On finit par sortir du lot. Pour quelques-uns encore, un mouton noir. C'est-à-dire que je réagis pas de la même façon qu'on réagit. J'essaie toujours de trouver le moyen de trouver des solutions, de communiquer, de parer au côté sombre de l'humain. Alors, est-ce que je suis parfaite? Pas du tout.
Non.
Est-ce que j'ai...
Mais j'en suis convaincue parce que sinon vous seriez d'une platitude infinie, Danielle. Il faut qu'on ait nos erreurs et il faut qu'on ait nos failles parce que sinon ce serait pas drôle. Hein. Sinon ce serait comme
Absolument.
Une mer plate à un moment
et
donné.
Et les accueille. Il faut les accueillir.
Oui.
Ces failles,
oui.
Comme vous les appelez, parce qu'ils font partie de nous. En fin de compte, je crois que c'est cela. C'est d'être capable de reconnaître ce qui fait de nous un être d'exception, c'est-à-dire un tout, des émotions qui quelquefois sont complètement irrationnelles, d'autres fois, mais on apprend, on se forge, et c'est pour ça que je dis l'écoute est importante, l'empathie est importante, la volonté de comprendre ce qui nous entoure est tellement importante, parce que je peux avoir des opinions aujourd'hui, mais ces mêmes opinions aujourd'hui, le fait d'aller vers ce qui cause cette opinion de façon plus négative, elles vont changer probablement, peut-être que dans 6 mois ou dans un jour ou dans un an, ces mêmes opinions vont se façonner, se repenser. Mais c'est pour ça qu'on les appelle des opinions, c'est parce que c'est un cheminement. Je ne reste pas campée sur mes opinions, ah, pas du tout. Par contre, il y a une différence avec les valeurs, Clotilde. Des valeurs sont mes piliers. Les valeurs que je n'échangerai contre rien au monde.
D'ailleurs, vous en avez fait un livre aussi qui sera peut-être en audio un jour.
Hein? Tout à fait, au cœur de mes valeurs. Exactement, c'est ce que ça voulait dire. C'est que mes valeurs sont ce qu'elles sont. Elles sont mes piliers, mais mes opinions vont évoluer au gré, justement, des gens que je vais rencontrer, des défis que je vais vivre, des joies que je vais vivre, des lectures que je vais faire, des conférences auxquelles je vais assister, peu importe, elles vont être mouvantes, elles vont être flexibles. Et c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Je trouve dommage. Et je pense que vous le savez que aujourd'hui l'humain se cantonne dans des choses qui n'ont plus leur place. On améliorerait tellement nos conditions de vie, du fameux mieux-être, du vivre ensemble, si on apprenait à juste lâcher prise.
Mais c'est ça. Mais si on apprenait, Daniel, pardon de vous interrompre, mais malheureusement, ce devrait être une matière obligatoire. Bon, c'est sûr que quand on était petit, vous avez peut-être eu ça aussi, vous. Nous, on avait la classe de morale. Ça, c'était... Bon. On s'en rapprochait quand même un peu parce que on nous disait mais écoute, respecte ton prochain, arrange-toi comme tu veux, mais tu n'as pas bon. Sauf que bon, moi j'y voyais là-dedans aussi un petit peu d'obscurantisme religieux là-dedans. Parfois ça se rapprochait un petit peu évidemment de la religion catholique et tout ça et de la bien-pensance. Mais on parlait de mouvance. S'il y en a une qui a eu une vie mouvante, c'est bien vous. Ne serait-ce que toutes les jobs que vous avez faites, les gens ne le savent pas. On le découvre en lisant votre livre, mais vous avez quand même été réceptionniste ou je sais pas quoi dans un CLSC, où d'ailleurs à un moment donné, on n'a plus voulu vous laisser partir, évidemment, quand on a une perle comme ça, on la garde. Non, mais sérieusement, on le sait pas, tout ça. Je veux dire, bon, vous avez été dans le carton, vous avez été dans... Et à chaque fois, d'ailleurs, vous avez conservé avec les gens avec qui vous avez travaillé, je parlais de votre fidélité, vous avez conservé des liens. Toujours. Moi, je trouve ça épatant.
Oui, toujours. Alors, c'est un rappel, et je terminerai là-dessus, c'est un rappel que, tu sais, quand on dit, maman me disait toujours, n'oublie pas que dans la vie, les gens que tu rencontres en montant, tu vas les revoir en descendant.
Oui.
Et c'est resté gravé, parce que je ne comprenais pas au début ce qu'elle me disait, mais au fur et à mesure, je me disais, il faut toujours, peu importe quelle est la situation quand on quitte quelque chose, laisser la place propre, parce que tu sais jamais quand tu vas y revenir ou quand tu vas revoir peut-être cet état de lieu ou ces personnes-là. Donc, essaye du mieux que tu peux de ne pas faire de mal. Juste, puis laisse les autres décider, je veux dire, c'est leur perception. Mais toi, si toi, tu sais que tu as fait de ton mieux pour faire le mieux, tu vas voir que tu pourras toujours prendre le téléphone, rencontrer cette personne, la regarder droit dans les yeux. Puis ça ne veut pas dire que ça va être comme ça à chaque fois, mais si ça devient un leitmotiv de vie, hein, de valeur, tu vas voir que plus souvent qu'autrement, c'est ce qui va se passer. C'est qu'on va finir par dire, c'est quoi, j'ai pas grand-chose à dire sur elle. T'sais, à part que, oui, on l'aime ou on l'aime pas, mais t'sais, est-ce qu'elle a fait du tort?
C'est ça, exactement.
Pas vraiment.
Alors, votre maman, parlons-en. Je voudrais qu'on écoute un autre très court extrait. Moi, c'est le moment qui m'a certainement le plus touchée et je voudrais vous en remercier. Vous vous êtes laissé aller dans la lecture à une émotion qui était nécessaire et je pense que les auditeurs vont apprécier.
Nous avons organisé une cérémonie religieuse particulière avec l'aide du prêtre. Ce jour-là, l'église était pleine de gens du quartier qui avaient connu maman. Beaucoup de jeunes, amis de mes enfants, assistaient aussi, la larme à l'œil, aux adieux que nous faisions à celle qu'ils appelaient affectueusement « mamie ». J'avais même osé demander une faveur au prêtre en lui expliquant qu'Ahmed, qui avait vécu aux côtés de maman durant 27 ans, était musulman et souhaiter lui faire ses adieux selon ses rites. À la fin du sermon, Ahmed et mon neveu, debout, devant le cercueil de maman, ont récité des versets du Coran pour Eliane. Incroyable ! Dans une église de Repentigny, devant des catholiques, nous en avons eu la chair de poule. Triste, émouvant et magique, tout le monde pleurait.
Alors, je voudrais tout de suite préciser. Ça va, Daniel ?
Vous le savez, hein ?
Oui, c'est ça. Mais c'est pour ça que je voudrais regarder. Parce qu'on a pleuré, faut le dire, quand on a enregistré ce bouquin. Mais on a aussi beaucoup ri. Voulez-vous qu'on se souvienne ensemble de quelques-uns de nos fous rires mémorables, Daniel Henkel ?
Oh, vous là, j'ai les larmes aux yeux, puis vous me faites rire encore. Oui, si vous voulez, je veux juste préciser par contre, vous le savez, notre entrevue se passe, mais c'est une date fatidique, puisque c'est aussi le 13 novembre que maman est partie, il y a 20 ans.
Oh, en effet.
Donc c'est quand même très très présent, même si on pense qu'elle est immensément présente, et donc à chaque fois c'est comme si c'était un retour, mais à l'entendre je me dis, mon Dieu, ce qu'on a pu faire, ce qu'elle a été capable de faire en étant juste elle, en étant juste amoureuse de la vie.
Et vous lui ressemblez beaucoup, Daniel. on rigole un petit coup.
Oui.
Allez, on va pas fermer les micros, d'accord? On va pas fermer les micros, puis on écoute ça ensemble.
Ah. Alors, oui, je respire. Ouf. Ah, Seigneur doux Jésus, qu'est-ce que tu me fais vivre? Alors, dis-moi ce que tu veux que je dise.
Je vais remonter.
Ce nouveau refus n'a fait qu'attiser mon envie de garder le petit animal. Et n'écoutant que mon cœur, je me suis sauvée vers la...
Et je pleure. Moi, j'en peux plus, c'est fantastique. Je te remercie, ma chérie. Oh là 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 là. Ah, que j'apprends, que j'apprends.
Tel que je le lui avais enseigné. Malgré cet échec.
Ça, c'est la meilleure. Je pense que juste de penser à l'échec, je voulais le rendre plus humain. Chantons. Chantons, mes amis. Ce n'est qu'un échec.
Bonjour, Madame Henkel. Ici, Monsieur Jean. Est-ce que je vous dérange?
Arrête, mais ta tête. Écoute. C'est comme si une mouche était rentrée dans ma narine. C'est surtout tes expressions. Faut que je te prenne en photo. C'est comme... Qu'est-ce qui se passe?
Seriez-vous en train de m'insulter? Elle s'est esclaffée tête en arrière.
C'est juste que t'as pas une seule once de cellulite.
Allez, je vais t'en faire une.
J'y suis arrivée. Wouh. Maman, c'est fini.
Encore quelque chose, tu veux encore quoi? Mon sang? Non, fini, terminé. Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi.
Et j'ai fini ça là-dessus, dis-moi,
oh,
parce
c'est
que...
incroyable.
C'est incroyable. Oui, ben oui. Eh ben oui.
J'ai crampé.
Mais j'espère, Daniel, c'était le but. Parce que je veux que les gens comprennent bien que ce livre-là, c'est une biographie, mais c'est un livre d'aventure, c'est un livre d'amour, c'est un livre qui contient beaucoup de rires, mais aussi, oui, c'est vrai, beaucoup de larmes, beaucoup d'émotions, parce que c'est tout ce que vous êtes, Daniel.
C'est ça. C'est la petite fille, tu te rappelles, en moi, qui ressort. Ouais, je n'ai jamais fait de lecture, donc je ne suis pas une lectrice professionnelle. Et vous aviez ce don de me ramener avec beaucoup de délicatesse sur le droit chemin. Mais il y avait des expressions de votre visage qui me frappaient tellement que je passais de la larme au rire et aux crises. Mais c'était tellement, tellement beau et bon. Je sortais à chaque fois de ces lectures avec vous, Clotilde, et puis vraiment, vous avez fait un travail extraordinaire pour m'accompagner. J'appréhendais ces moments au début parce que c'est quand même très, très, très enfoui dans mes tripes. Mais j'appréhendais ces moments, puis je ressortais des fois avec un peu plus de sérieux, d'autres fois avec le sourire jusqu'aux oreilles en me disant, j'ai réussi à aller jusqu'au bout encore de ce défi que je me suis lancé, c'est de lire ma vie avec tout ce que ça comporte comme émotion.
On va se laisser avec vos mots, Daniel, lorsque vous écrivez à la toute fin du bouquin, mais s'il est une chose que je perçois intuitivement, c'est que je vais continuer à aider les autres. J'ai la ferme intention de partager avec le plus grand nombre les leçons que la vie m'a apprises. J'ai l'intime conviction que je peux encore être utile. C'est tout vous, ça, Daniel Henkel.
Tout à fait. Jusqu'au dernier souffle, ma belle Clotilde. C'est une promesse que je me fais. C'est même pas une promesse, c'est un état d'être. Je ne conçois pas, honnêtement, la vie autrement. C'est un partage, point.
Alors Daniel, on va se laisser là-dessus. Je voudrais embrasser vos enfants qui ont eu la gentillesse et la générosité de venir aussi enregistrer le prologue de ce livre, puisque vous les faites parler, puisque vous leur aviez demandé, mais qu'est-ce que t'en penserais toi si j'écrivais mon bouquin? Alors ils sont venus lire leurs réponses et c'est tout à fait charmant. C'est au début de ce livre audio disponible, entre autres, évidemment sur le catalogue livreaudio.vuzevoix.com où vous êtes venus enregistrer. Daniel Henkel, vous êtes quelqu'un de rare et on est tellement heureux et content que vous ayez choisi Montréal pour vous installer. Merci beaucoup.
Merci à vous, Clotilde. Merci à Vue et Voix. Et merci à tous les auditeurs et auditrices qui auront le goût de m'entendre.
Au revoir.
Au revoir.
Au plaisir. Tout d'un coup, le doute m'assaille. Vous ai-je donné le titre du bouquin? Peut-être pas forcément, alors le voici. « Quand l'intuition trace la route » de Daniel Henkel. Des livres pleins les oreilles, la suite. Bonjour Clotilde Seille, en votre compagnie, en seconde partie de cette émission. Mine de rien, Noël approche, même si c'est sûr que ça va être un Noël un peu plus tristounet, un peu plus solitaire. Mais justement, j'ai pensé à un cadeau que vous pourriez peut-être faire à des gens qui auraient sans doute besoin de compagnie. Je pense aux personnes malades, je pense aux personnes âgées, ou simplement une personne seule parmi la multitude de ceux qui vont l'être, ou des gens qui sont loin aussi peut-être. C'est un coussin intelligent pour écouter notamment des livres audio. Alors c'est sous forme de coussin, je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais c'est vraiment un très très beau cadeau à faire à tous ces gens qui vont se sentir seuls à Noël. Également dans cette seconde partie, une lettre écrite à Monsieur Macron. Vous savez qu'en France, ils sont reconfinés, du moins au moment où j'enregistre cette émission, ils l'étaient encore, dans deux semaines peut-être moins, mais là-bas, tous les petits commerces. Tous les petits commerces sont malheureusement fermés. Par contre, toutes les grandes surfaces sont ouvertes. Cherchez l'erreur. Alors, je suis tombée sur une lettre d'une libraire. Une libraire qu'elle a écrite, une lettre écrite à M. Macron. Je voudrais vous en lire quelques extraits. On parlera du prix du Quai des Orfèvres qui s'en va, le prix du Quai des Orfèvres 2021. Voilà, Cap Canaille de Christophe Gatt, enregistré par et pour Kobo. Également, en secondeur, le prix Pulitzer 2020 remis à Colson Whitehead pour Nickel Boys. J'en aurai aussi un extrait. Et il va y avoir des nouveautés, notamment chez Gallimard et chez Audiolib. Mais tout de suite, je parlais des gens qui sont loin. Je me suis souvenu tout de suite de cette chanson de Michel Jonas. Chanson pour les gens qui sont loin.
C'est une chanson pour les gens qui sont loin, les tiens, les miens, les petites poupies, les petits frères. Un peu trop de solitude et un peu trop de misère se sont jetés dans les embouteillages d'une rivière. C'est une chanson pour les gens qui sont loin, les chats, les chiens, les pépés, mémés, père et mère. Surtout pas passer en moi ce murmure, les vieux, celui qui reste a bien envie de quitter la terre. Où que vous soyez, qui que tu sois, écoute ça bien. Oh, oh, oh. C'est une chanson pour les gens qui sont loin. Loin, loin. C'est une chanson pour les gens qui sont loin, les petits copains, les petits potes et les petits pères, ces gars, ces filles qu'on n'a pas pu supporter la guerre. À tous les moins que rien qu'on vécu par derrière. C'est une chanson pour les gens qui sont loin. Nini, tu viens, faut s'aimer à se rouler par terre, jusqu'à la fin du monde et jusqu'à ce qu'on soit vieux, et que nos mondes d'amour se soient pépères, mémères. Où que vous soyez, qui que tu sois, écoute ça bien. Oh, oh, oh. C'est une chanson pour les gens qui sont loin. C'est une chanson pour les gens qui sont loin. Loin, loin. Loin, loin.
Alors pour les gens qui sont loin ou qui seront peut-être isolés encore plus par le Covid, au moment, par la Covid ou le Covid, je ne sais pas, en France ils disent le Covid, ici on dit la Covid, je suis un petit peu perdu, mais en tout cas, on va dire le virus, tiens, parce que la virus, c'est sûr, ça ne marche pas. Alors, donc, ceux qui seront embêtés par le virus et surtout qui seront éloignés les uns des autres par cette horreur-là, ou alors qui vivent simplement seuls ou qui sont peut-être malades ou qui sont peut-être non-voyants ou qui vivent peut-être avec un handicap quelconque, eh bien, j'ai vraiment un cadeau, j'ai trouvé ça. Ça s'appelle un coussin connecté et il s'appelle Victor, un petit peu comme la machine que nous connaissons bien, que les personnes non-voyantes connaissent bien. Mais Victor, là, dans ce cas-là, ce n'est pas ni une machine ni un être humain, c'est un coussin intelligent. Donc, ça se présente vraiment comme un coussin avec des petites applications. Et quand on appuie sur les applications, eh bien, on va là où on veut, écouter la radio, écouter de la musique, écouter des livres audio, bien évidemment. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était vraiment sympathique. Pour fonctionner, comment ça se passe? Eh bien, Victor est relié en Bluetooth à la télévision via un simple boîtier qui est branché à l'arrière de la télé. Donc, même si la personne personne n'a pas une télé intelligente, eh bien, ce petit boîtier-là va être très, très, très intelligent pour pouvoir utiliser le coussin avec ses grosses icônes qui sont présentées comme des grosses touches, si vous le préférez. Sous chaque icône, il y a un capteur. Donc, à chaque fois que vous effleurez une simple légère pression sur le coussin, sur une icône, et hop, la fonction correspondante se lance sur l'écran du téléviseur. Alors évidemment, il y a plein de fonctions disponibles. On peut faire des appels vidéo, c'est quand même génial pour une personne isolée qui a peut-être du mal avec ses mains ou que sais-je encore. Victor est vendu aussi avec une webcam, mais donc qu'on installe sur la télévision. Alors ça permet aux grands-parents, eh oui, de pouvoir dialoguer avec leurs petits-enfants, par exemple. Et puis, il y a aussi les photos qu'on peut regarder, la musique et les livres audio qu'on peut écouter, les mails. Et il y a même une touche d'urgence qui appelle directement les proches si la personne ne se sent pas bien. Je vous dis, le coussin Victor, c'est vraiment un cadeau à faire. Bon, ça, c'est pas donné, apparemment. Ça doit coûter dans les peut-être 300 ou 350 dollars. Mais... pour une personne qui vit seule, qui est peut-être malade, quand on s'inquiète, il me semble qu'avoir quelque chose comme ça sur les genoux, pour la famille, pour les proches, pour les amis, ça peut être une excellente idée. C'est un article que j'avais trouvé dans Actualité de Sophie Jousselin et j'ai voulu, bien sûr, là, il n'y a pas d'extrait inhérent à ça, mais j'ai voulu vous faire part de ce coussin connecté. Je voudrais aussi vous faire part d'une lettre écrite par un libraire, elle s'appelle Florence Kammermann, elle a ouvert sa librairie à Cannes il y a quelques années. Et ben, comme ses consoeurs et confrères, à cause de ce confinement numéro 2, la boutique est fermée. Elle écrit ça un petit peu comme la lettre au président de Boris Vian. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens vous dire que je vous ai désobéi. Je refuse de sacrifier ma librairie à l'autel de vos décisions que je juge incohérentes et illogiques. Je ne suis pas Abraham prêt à sacrifier Isaac, vous n'êtes pas Dieu non plus. Je suis une simple libraire qui lutte pour ses livres, ses lecteurs et ses auteurs, pour la liberté d'expression et la richesse de notre culture, et je refuse de fermer ma porte. Pardonnez mon affront, monsieur le Président, mais ma démarche est noble et elle est soutenue par de nombreux Français. Vous avez tout pouvoir et je n'ai que ma seule plume, mes seuls mots et mes seuls livres comme armes, mais ils ont fait leur preuve, les mots restent, les écrits restent, le pouvoir est éphémère, vous savez, monsieur Macron. Vous luttez contre un virus, vous luttez contre des terroristes, j'entends bien, vos responsabilités sont lourdes. Nous avons subi un premier confinement, si au premier jour de celui-ci nous avons ouvert une librairie de garde, oui, servant nos lecteurs par la porte arrière, comme des contrebandiers. Nous avons ensuite sillonné tout Cannes et ses environs pour livrer nos lecteurs. Comme de nombreux confrères, comme des magasins de jouets ou des commerces indépendants divers, vos décisions tuent les petits commerces et appauvrissent les hommes, des femmes, qui pourtant respectent le protocole sanitaire à la lettre. En est-il autant en grande surface ? Pire encore, face à l'injustice d'avoir dans un premier temps autorisé les FNAC et les grandes surfaces à ouvrir leurs rayons livres, vous les avez maintenant fermés au lieu d'ouvrir les librairies. Monsieur le Président, de nombreux auteurs vivent de maigres droits alors qu'ils nourrissent sans relâche nos esprits et défendent notre liberté d'expression. La solution serait d'ouvrir les petits commerces. Des femmes seules, des veuves, des enfants, des hommes qui ont trouvé un lieu d'échange et de partage, pour lesquels des soirées dînatoires avec des auteurs, des ateliers littéraires les ont sortis de leur solitude, eh bien, ces gens-là sont plus seuls encore. Enfin, pour défendre nos livres, rempart absolu contre l'obscurantisme et la bêtise, sauvons les librairies et les auteurs. Nous serions tous heureux de lire votre réponse dans cette attente. Recevez, monsieur le Président, l'expression de ma plus pure franchise, Florence Kammermann, libraire. C'est un policier qui a reçu le prix du Quai des Orfèvres. Le Quai des Orfèvres à Paris, c'était l'endroit, c'est encore l'endroit célèbre où se trouve la police. Le livre s'appelle Cap Canaille. L'auteur s'appelle Christophe Gatt, G-A-A-T. Il est commissaire divisionnaire en poste. Il est à la Guadeloupe, lui, maintenant. Et il nous présente un policier qui s'appelle Henri Saint-Donat parce qu'il a vécu au Québec. Et c'est un ancien du 36. C'est comme ça qu'on l'appelle, le Quai des Orfèvres. Il est maintenant en poste à Marseille. Ça va être un bon bouquin pour recevoir le prix du Quai des Orfèvres 2021.
Si la police judiciaire de Paris n'avait pas quitté son célèbre quai, il aurait aimé terminer sa carrière là où il l'avait commencé et rester jusqu'au bout un orfèvre de la crime. Mais le déménagement de septembre 2017 lui avait fait prendre une décision radicale. Quitter le centre de la capitale avec vue sur la Seine, pour la porte de Clichy avec vue sur le périph', était une cause de séparation obligatoire avec le 36. Et ce fut le moment de lancer sa moto Honda Goldwing 1800 sur les routes ensoleillées du 13. Le gamin de Paname avait décidé de terminer sa carrière chez les minots de la cité phocéenne. Mais toujours à la PJ. Quand on s'appelle Saint-Donat, il y a des limites à l'infidélité. Il n'aurait jamais pris une telle décision sans l'accord de l'amour de sa vie, Isabelle, sa femme depuis toujours et pour toujours. En tout cas, depuis qu'ils s'étaient croisés, lui âgé de 27 ans, inspecteur au holster tout neuf, et elle de 23 ans, vendeuse dans un magasin de fringues. Elle s'imaginait styliste branchée et elle était devenue directrice d'une boutique tendance. Il espérait terminer sa carrière inspecteur divisionnaire à la police judiciaire de la préfecture de Paris. Il était depuis 8 mois commandant divisionnaire fonctionnel à la direction interrégionale de la police judiciaire de Marseille. Évolution normale en 3 décennies de carrière, des grades, des corps et des esprits.
Lorsque Morane reprenait Claude Nougaro, Armstrong, ce n'est pas par hasard si j'ai choisi cette chanson-là, c'est qu'elle nous amène vers un roman contemporain qui vient d'obtenir le prix Pulitzer 2020. Il s'agit de Nickle Boys de Colson Whitehead, un livre audio lu par Stéphane Boucher, production Audiolib. Colson Whitehead, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce que c'est à lui que l'on doit Underground Railroad, dont j'avais abondamment parlé l'an dernier à cette même émission. C'est pour cet écrivain journaliste, il reste encore trop de choses à dire, à écrire sur l'esclavage pour qu'il se taise, et c'est ce qu'il vient de faire à nouveau. Là, il nous raconte l'histoire de la Nickel Academy où des enfants noirs vivaient les pires moments qu'on puisse imaginer. Il semble que Whitehead ne nous épargne rien, disant que pour lui, c'est le souci de la réalité qui prime. Et dans ce cas-ci, on imagine mal encore une fois à quel point l'homme est capable du pire envers son semblable, surtout quand celui-ci n'est pas de la même couleur de peau. On sait par les événements qui se sont produits dans les mois derniers encore à quel point c'est d'actualité. Alors cette histoire vraie se passe en Floride. Et il n'y a guère que dans cet état, d'ailleurs, qu'il a été mentionné un jour qu'on avait découvert des restes humains d'enfants sur un terrain encore occupé par une autre école que celle qui, à l'époque, l'Académie Nickel, ne recevait que des enfants noirs. Des dizaines et des dizaines de tombes d'enfants dont on disait aux parents qu'ils avaient fugué, d'où leur disparition, alors qu'en fait, ils avaient été violentés puis assassinés. On disait de ces jeunes que c'était des enfants à problème. Durant plus de 111 ans, cette académie a sévi, parce que c'est vraiment le terme exact, en Floride. Et figurez-vous que ce n'est qu'en 2011 qu'elle a fermé ses portes. C'est pas si vieux que ça, ça. Dans ce livre qui a valu à Colson Whitehead de recevoir son deuxième prix Pulitzer, on suit le parcours de deux jeunes présumés délinquants. Ils sont surtout noirs, ça on en est certain. Délinquants, on va le découvrir, violentés, c'est une certitude aussi. On les envoie donc à cette école et on va suivre leur parcours. Alors c'est un livre qui est sorti en anglais l'an dernier. Il est maintenant en français et en audio, produit par Audiolib et lu par Stéphane Boucher. Nickel Boys, en voici un extrait.
Nickel était fermé depuis 3 ans, ce qui expliquait l'état sauvage du terrain et l'habituel vandalisme adolescent. Même le plus innocent des décors, un réfectoire, un terrain de football, prenait un aspect sinistre, sans qu'il y ait besoin de recourir à des trucages photographiques. Les images étaient dérangeantes. Des ombres tremblantes s'insinuaient dans les coins, et la moindre tache évoquait du sang séché. À croire que l'équipement vidéo faisait ressortir la nature sombre de chaque image, absorbant le nickel visible et recrachant le nickel invisible. Si cela se produisait avec les lieux les plus anodins, pouvez-vous imaginer le résultat lorsqu'ils étaient hantés? Les garçons de nickel revenaient moins cher qu'une danse à 10 cents, et on en avait pour son argent. C'est en tout cas ce que les gens disaient.
On va changer complètement de direction et de sujet avec un livre qui est lu par Elsa Lepoivre. Ça a été enregistré par Gallimard dans la collection Écoutez lire. Ça s'appelle Fille. C'est signé Camille Laurence, j'imagine, comme Brassens. Dans l'actualité, on nous dit ceci de ce livre. Fille de Camille Laurens, maudit-elle enfant qui n'en est pas un. Roman francophone né dans les années 60, Laurence Barraquet grandit avec sa sœur dans la classe moyenne de Rouen. Or apparaissent très vite de pernicieux sentiments de différence et de déception face aux autres en général, à son père en particulier. Telle est Fille de Camille Laurens en lice pour le prix Landerneau des lecteurs. Laurence combat les préjugés, elle tente de retrouver une place dans un monde d'hommes dont l'emprise se joue à chaque instant, du sexuel à l'intellectuel. C'est un combat au quotidien où les brimades liées à son sexe sont légion simplement à son sexe, mais toujours l'air de rien, comme si c'était pas grave. Et ça entraîne la jeune fille dans une spirale de culpabilité, induisant de fait l'acceptation sans aucun échappatoire. Elle va ensuite se poser la question de la transmission à une nouvelle génération. Cette Laurence va devenir mère à son tour, et mère d'une fille. Et là, ici, on nous dit que chaque mot a un sens et fait sens. Insidieusement, le langage crée des sillons entre les sexes qui deviennent ravines infranchissables. La langue de Camille Lorrain, se semble-t-il, et quand je vous dis semble-t-il, c'est parce que je n'ai eu le temps ni de le lire ni de l'écouter, est le véritable héros du roman et s'invite dans chaque axe de réflexion avec une maîtrise remarquable. Pour faire écho à ces mots-là, un extrait.
C'est une fille. Ça commence avec un mot, comme la lumière ou comme le noir. Ta naissance ressemble à la création du monde. Et il y a le ciel et il y a la terre. Une parole coupe en deux l'espace, fend la foule, sépare le temps. Ce n'est pas Dieu qui la prononce, toutefois. Autant que tu le saches tout de suite, c'est Catherine Bernard, sage-femme à la clinique Sainte-Agathe où l'horloge murale indique 5h15. Cette annonce, elle ne l'a pas préparée, elle n'a rien désiré ni décidé, ayant d'autant moins d'opinion sur la question qu'elle est bonne sœur, mais le résultat est le même. Elle le dit, elle te nomme en te mettant au monde. Sous sa coiffe immaculée, l'épouse vierge de Dieu prononce son arrêt. Elle te fait naître en te nommant. Tu nais d'un mot comme d'une rose. Tu éclos sous la langue. Tu n'es rien encore, à peine un sujet. Tu peines à venir à l'existence. Tu ne peux pas encore dire « je suis ». Personne ne dit « elle est », même au passé. Et la fille fut, même avec un article indéfini. Et une fille fut, ça ne se dit pas.
Effectivement, une très belle plume signée Camille Lorrain, lue par Elsa Lepoivre. Vous trouverez ça sur la collection Écoutez lire de Gallimard ou sur d'autres plateformes de livres audio. On va finir cette émission-là avec un autre livre que j'ai très très hâte d'écouter. Ça s'appelle Impossible. C'est de Eri de Luca, qui est de nationalité italienne. C'est lu par Noran Natrella et Denis Podalides. C'est un huis clos, c'est vraiment un huis clos que l'on dit remarquable et qui me rappelle un peu dans le genre, vous savez, ce film avec Michel Serrault et Lino Ventura qui s'appelait Garde à vue et qui était un huis clos. Eh bien là, il s'agit d'un huis clos également entre un alpiniste et un magistrat qui est chargé d'une affaire. Ce dernier doit faire avouer au premier un meurtre, mais un meurtre commis en montagne, si tant est qu'il y ait eu meurtre, car c'est bien dans cet univers que nous transporte Eri de Luca, en montagne où tous les grimpeurs vous le diraient, on connaît la solitude devant l'épreuve, devant les images qu'on a sous les yeux. À flanc de montagne, tout peut arriver, surtout l'impondérable, un animal, un obstacle infranchissable qui impose de rebrousser chemin ou de faire un grand détour, un outil négligé qui se brise, une météo capricieuse. Là, on est dans les Dolomites, en Italie donc. Et sur une partie de cette montagne, deux hommes cheminent, deux hommes grimpent. Tout d'un coup, l'un d'entre eux tombe et c'est l'autre qui donne l'alerte. Mais ces deux-là se connaissaient bien, ce sont des compagnons de la grimpe, comme on les appelle, puisque depuis même leur adolescence, ils faisaient déjà partie d'un groupe de révolutionnaires. Et à cette époque-là, l'un des deux avait livré l'autre à la police, ainsi d'ailleurs que tous les autres qui faisaient partie de ce groupe de révolutionnaires. 40 ans plus tard, ces deux-là grimpent. Alors, est-ce que c'est une vengeance? Est-ce que c'est une négligence? Est-ce que c'est une malchance? Est-ce que le magistrat va tenter de découvrir pendant cette longue discussion, qui n'est pas qu'une aventure d'alpinisme ou un simple livre policier? Il faut aller plus loin que ça. Vous savez, c'est comme une montagne à gravir. Une montagne à gravir, une vie à accomplir. Il y a beaucoup de rapprochements à faire et beaucoup de comparaisons possibles. C'est lu, je vous le rappelle, par Denis Podalides, qui fait le magistrat, et Laurent Natrella dans le rôle du survivant. Un extrait.
On peut avoir un curieux comportement en montagne. Si l'on sent quelqu'un derrière soi qui grimpe plus vite, on accélère pour ne pas se faire dépasser. C'est enfantin, mais fréquent. Il est évident que si l'autre est plus rapide, on sera rattrapé. Celui qui est devant force le rythme et devra bientôt ralentir ou s'arrêter pour reprendre son souffle. il y a ceux qui font semblant de lacer leurs chaussures, de regarder le panorama, de prendre une photo. S'il s'agit d'un couple, alors j'entends l'homme qui invite la femme à monter plus vite. Il le dit à haute voix. Il tient à me faire savoir que lui grimperait beaucoup plus rapidement. Quand c'est moi qui tombe sur quelqu'un de plus rapide, je ralentis et je lui cède le passage. Je n'aime pas avoir quelqu'un dans mon dos.
Vous voyez, cette remarque ne figurait pas dans votre précédent compte-rendu. La présence de quelqu'un dans votre dos vous dérange. Vous préférez être derrière, suivre. C'est intéressant. Continuez.
J'aime bien aussi hein, quand il y a deux voix comme ça, différentes. Je vous rappelle le titre « Impossible » de Herri de Lucas. C'est également produit par la collection « Écoutez, lire » de chez Gallimard. Et c'est ainsi que l'émission des livres pleins les oreilles se referme aujourd'hui. Je voudrais remercier mon unique invité en première partie qui fut Daniel Henkel, un autre très beau moment avec cette femme rare. Au Québec, oui, à Montréal, au Québec, mais je pense aussi sur la planète entière, on en voudrait un peu plus des comme ça. Je voudrais aussi remercier Jean-Sébastien Laliberté en régie, puis remercier les auditeurs de CKVL ou de Canal M ou encore tous les autres qui nous écoutent en balado religieusement à chaque semaine. Passez une belle semaine, plongez-vous les oreilles dans un livre audio, c'est vraiment une autre façon d'écouter les histoires et c'est fantastique. C'était Clotilde Desailles qui vous dit à la semaine prochaine. Salut.